Vous êtes sur RTL.
7h46, merci à vous tous qui écoutez la première radio de France, Elisabeth Martichoux. Vous recevez donc ce matin le président du Modem et maire de Pau, François Bayrou.
Bonjour François Bayrou.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ce matin sur RTL. Aux États-Unis, les démocrates espéraient battre Donald Trump. Ils ont certes gagné la Chambre des représentants, mais la réalité aussi, c'est que Trump n'a pas perdu hier aux élections de mid-term. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Europe?
C'est un défi pour l'Europe. C'est une meilleure nouvelle que si, évidemment... le président des États-Unis avait la majorité au Congrès dans son ensemble, c'est-à-dire au Sénat et à la Chambre des représentants. D'une certaine manière, là, il va y avoir un début de rééquilibrage. Mais vous avez parfaitement raison de dire que le résultat, c'est exactement celui qui était acquis déjà il y a 2 ans. Une Amérique coupée en deux, dans laquelle Trump et sa politique n'ont pas reculé. Trump et sa politique, au contraire, ont maintenu leur position, ce qui fait que pour l'Europe, c'est un défi très important. La seule question qui se pose, c'est que nous voyons se développer une politique qui est ouvertement, dans l'égoïsme de l'intérêt purement national tel que Trump l'imagine, sans se préoccuper du reste du monde, et au contraire, en biffant d'un trait de plume un certain nombre d'engagements qui étaient essentiels pour l'équilibre du monde. Et en face de cela, la seule question c'est, est-ce que l'Europe veut faire quelque chose, ou bien est-ce qu'elle accepte au contraire de devenir servile ?
C'est un défi, en effet. Il y a justement un historien dans le journal Le Monde qui soulignait le parallélisme entre le rôle ou la place des États-Unis sur la scène internationale aujourd'hui et ce qu'elle était, cette place, dans l'entre-deux-guerres, quand il n'y avait pas de participation des États-Unis à la SDN, l'ex-ONU, pas de réaction à l'émergence des dictatures, un repli protectionniste, un refus des migrants, c'était ça déjà dans l'entre-deux-guerres. Et ça a bouleversé, en tout cas, ça a été catastrophique pour l'ordre mondial à l'époque, bien sûr, avec les conséquences qu'on sait. Est-ce que c'est dangereux aussi pour nous, Européens, ce retrait des États-Unis?
Ça n'est pas seulement dangereux, c'est le signe de notre soumission aux États-Unis. Vous savez ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Donald Trump a décidé, tout seul, unilatéralement, de sortir des accords sur l'Iran et d'imposer des sanctions à l'Iran. Que s'est-il passé? Bon, les entreprises américaines ont suivi, c'est assez normal. Mais ce qui s'est passé de plus inquiétant, c'est que les plus grandes entreprises européennes, dont les gouvernements n'avaient pas pris cette décision, bien au contraire, ces plus grandes entreprises européennes, Peugeot, Total, Bouygues, on peut en trouver d'autres, ont été obligées de replier leurs valises, de faire leurs valises et de quitter l'Iran en dépit des investissements très importants qu'elles y avaient fait. C'est une soumission... imposée.
Oui.
Et donc c'est une soumission acceptée. Et les emplois, tout ce que nous aurions pu acquérir dans une décision qui avait été librement prise par les gouvernements européens et par la direction de ces entreprises, tout cela a été balayé d'un trait de plume. Et si l'on ne se rend pas compte que cette question soumission ou indépendance, soumission ou souveraineté, c'est la vraie question historique du moment que nous sommes en train de vivre. Et ça dépend uniquement de nous.
Oui.
La seule question est de savoir, est-ce que nous baissons les bras ou est-ce qu'au contraire nous affirmons une puissance indépendante, capable de décider
défi,
pour elle-même face à ce défi qui n'est qu'une part du défi, des défis de la planète. Il y en a beaucoup d'autres.
Bien sûr.
La Chine,
mais dans
la Russie,
contexte,
etc.
François Bayrou, l'Europe est fracturée. Ça nous renvoie à la comparaison tentée par le président aujourd'hui entre la situation du moment et l'entre-deux-guerres. Contrairement à ce que j'ai dit d'ailleurs, le président n'a pas comparé hier Orban à Hitler. Mais il maintient ce duel entre progressistes et nationalistes. C'est une forme de chantage dans le fond entre eux. Voilà, vous avez le camp du bien et puis le camp du mal. Ce simplisme-là, est-ce qu'il est pertinent ?
En rien. Il y a eu un moment de l'histoire, précisément dans les années 30, c'était pas une forme de chantage, où les démocraties, les pays libres, étaient devant une question simple. est-ce que on construit une capacité de défense face aux menaces du monde ou pas? Alors les menaces ont changé. On n'est pas sous le feu des canons pour l'instant. Mais la soumission dans laquelle les États européens ou les pays européens acceptent de se placer est aussi dangereuse, aussi destructrice en tout cas pour notre économie et pour notre fierté qu'elle peut l'être. Et donc, c'est pas une forme de chantage.
Le clip du gouvernement qui appelle les Français à voter aux européennes et qui affiche Salvini et Orban comme des repoussoirs, vous l'avez vu. Vous le trouvez pas? Est-ce que vous le trouvez très fin?
Non. Non, je trouve pas que ce soit un clip très fin. Je trouve pas qu'il faille mélanger les prises de position politiques et puis la communication gouvernementale dont le but devrait être de faire que les citoyens s'engagent et se fassent inscrire sur les listes électorales. Mmh. Et présenter une position politique comme une communication de l'État, ça ne me paraît pas très fin.
C'est une position politique. D'ailleurs, Marine Le Pen a dit que c'était un signe de panique du pouvoir face à évidemment un résultat qu'elle attend
Oublions les mots qui ne sont pas adaptés.
Oui. La panique, c'est pas adapté. Emmanuel Macron n'est pas... Vous lui parlez tous les jours, vous l'aviez dit au grand jury d'ailleurs. Il n'est pas dans un état d'esprit de panique?
Ben vous avez vu, je crois que ce qu'il a dit hier et fait hier, je trouve d'ailleurs au passage qu'il a fait hier une très bonne interview, et ce qu'il a dit hier et fait hier, c'est à la double hauteur, à mon sens, c'est comme ça que je l'ai senti, c'est à la double hauteur que l'heure exige. Premièrement, une hauteur historique, on est en train de fêter le 100e anniversaire d'un événement qui a marqué la fin d'une des périodes les plus terribles que notre histoire nous ait offerte ou nous ait imposée, avec des millions de morts de chez nous, premièrement. Et deuxièmement, il est dans une rencontre avec les Français, directe, j'ai dit, à hauteur d'homme.
Oui, vous savez, hier, il y a une étudiante qui lui a dit, dans un bain de foule, qu'il a pris le temps de faire, et une étudiante qui lui disait « on a peur ». Et lui, il répond « il ne faut pas vivre dans la peur ». Il répond par une injonction. C'est comme quand il dit aux Français « ne vous plaignez pas », ou alors « il y a des passions tristes », ou alors « faut traverser la rue ». Mais les gens ne font pas exprès d'avoir peur. Il n'y a pas un manque de compréhension.
On peut être.
Il n'y a pas un manque de compréhension.
Je ne crois pas du tout. Je crois exactement le contraire. Exactement le contraire. Et tous les contacts directs qui sont les siens... c'est pour ça que je trouve que c'est bien d'être sorti de l'Élysée pour aller rencontrer les Français dans un moment particulièrement solennel, particulièrement précieux, historique. Mais tous ceux qui le rencontrent directement voient bien que c'est pas du tout la caricature qu'on en fait ou qu'on laisse faire, parce que il y a toujours des choses de cet ordre.
Donnons-lui le temps, c'est si facile de détruire. Qui a dit ça?
C'est vous, Nicolas Sarkozy.
Ça aurait pu être vous.
Ça aurait pu être moi, mais moi je ne pense pas qu'il faille retarder l'idée d'un résultat. Je pense que le résultat, il est en train de se produire sous nos yeux.
Ah ben les Français ne le font pas.
Oui.
Les Français ne
pas le résultat
comme ça.
En pouvoir d'achat, par exemple, comme on
ça
dit encore.
Pas. C'est pas décisif.
Le pouvoir d'achat, ça viendra le jour où l'économie française ira mieux.
Donc il faut que les Français attendent.
Mais c'est pas qu'ils attendent, c'est
et
que nous devons. Non, pas du tout, parce que il n'y a pas l'État d'un côté et les Français de l'autre. Il n'y a pas une manne qui viendrait du sommet et qui serait répartie ainsi sur tous les foyers et toutes les personnes. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et quand on pense ça, on pense au contraire, c'est exactement la faiblesse française, qui croit que c'est du sommet que viennent les choses. La vérité, c'est que nous avons tous ensemble...
Il y a des décisions qui viennent du sommet.
Excusez-moi.
La hausse qui a été votée dans le budget encore en janvier 2019 sur l'essence et le carburant, François Bayrou, pardonnez-moi, on n'est pas dans le concept, il y a des décisions qui sont prises et que le président est obligé de corriger d'ailleurs. Donc ce sont des mauvaises décisions.
Donc il le corrige et donc c'est très bien. Alors, on va s'arrêter une seconde à cette affaire. Cette affaire du prix du carburant, elle a pris naissance en 2007. Il y avait une élection présidentielle et vous vous souviendrez que Nicolas Hulot convoqué, je ne sais pas ce qu'il faut dire, tous les candidats à l'élection présidentielle, j'en étais, pour dire on est en train de courir à l'abîme en multipliant, en faisant en sorte que la consommation de pétrole ne baisse pas. Il faut qu'on prenne tous un engagement qui est de dire nous allons augmenter régulièrement le prix du pétrole pour que notre consommation soit raisonnable.
Excusez-moi, deuxièmement, François, on l'a raconté ça déjà.
Non, mais vous l'avez raconté peut-être,
loin,
mais moi
que
pas.
Ça venait alors, de loin. C'est la trajectoire
alors,
qui est différente.
Je le raconte ici. Oui. 2010, Nicolas Sarkozy, 2009-2010, Nicolas Sarkozy a décidé de mettre en place cette augmentation progressive. Ça a été confirmé par tous les gouvernements successifs en 2015, pour une raison profonde, qui est que tout le monde s'accorde à dire que la consommation d'énergie fossile est pour l'humanité un danger et un
François
risque.
François Bayrou, il nous reste quelques secondes. Votre point d'arrivée, c'est quoi ?
Est-ce qu'on fait face ou pas ? Mon point d'arrivée, c'est que lorsque quelque chose est raisonnable et décidé par tout le monde, on peut l'atténuer, on peut le compenser, mais il serait déraisonnable de changer continuellement de ligne politique.
Il a raison de maintenir. L'appel du 17 novembre, vous partagez la défiance du président à l'égard de ce mouvement citoyen. Il a dit hier qu'il était méfiant. Ou vous soutenez les Français dans leur colère ?
Non, je suis très méfiant lorsqu'on voit s'additionner des contestations ou des provocations qui sont sans lien entre elles. Et donc, de ce point de vue-là, je sais très bien à quel point, et souvent à juste titre, si nous ne changeons pas nos habitudes, en effet, les foyers sont impactés par l'augmentation du prix du carburant pour les voitures et pour le chauffage. De ce point de vue-là, cette émotion est une émotion qu'on doit comprendre et à laquelle on doit réfléchir, par exemple, dans le changement des habitudes. Et l'organisation des transports, elle mérite en effet qu'on change les habitudes. Et si vous voulez, je vous invite à Pau pour voir le premier transport en commun à hydrogène du monde qui va être mis en place à partir du mois
voilà,
de septembre.
Message subliminal, les collectivités locales doivent prendre leur part. Yves Calvi, vous êtes invité aussi, François Langlais. On est tous invités
d'autant
à Pau.
D'autant plus que François Bayrou nous a expliqué avant le début de cette interview qu'il y avait un magnifique aéroport à Pau, ce que je ne savais pas. Merci à tous
Merci
les deux.
À
L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr et dans un instant, c'est le journal de 8h sur RTL.